Bon, aujourd'hui, nous allons finir l'épître aux Hébreux. On est au chapitre 13 et juste à la fin, donc ça sera les versets 18 à 25 que nous allons faire. Pour certains, vous dites, bah, ça fait longtemps que nous sommes dans l'épître aux Hébreux. Pour d'autres, comme moi, je dis, bah, ça fait court. On a vu quand même des grandes tranches à chaque fois qu'on était ensemble. On a eu beaucoup de plaisir. Puis s'il y a des choses que vous avez manquées, n'hésitez pas d'aller sur le site, à aller sur le site parce que là vous allez retrouver les enseignements qui sont donnés et vous pouvez les podcaster, soit vous pouvez écouter direct. Donc ça vaut la peine. C'est une ressource qui existe si jamais vous allez regarder ces choses. Hébreux chapitre 13, les versets 18 à 25, c'est le texte que nous avons aujourd'hui. Je vais aborder ce texte un peu différemment que je crois que les gens font d'habitude, mais ça c'est aussi une bonne chose. Juste pour que vous sachiez, donc depuis ma plus jeune âge, j'ai toujours voulu être prédicateur. C'était une des premières choses que j'ai voulu être. Je crois que j'avais 4 ou 5 ans. Les gens me demandaient « qu'est-ce que tu veux être? » J'ai dit « prédicateur ». Ça a continué quand j'étais au junior high, à high school aux États-Unis. Les gens disaient « qu'est-ce que tu vas faire quand tu... » J'ai dit « bah, je vais étudier la théologie et je vais devenir prédicateur ». Et quand j'ai eu le travail de l'été que j'avais, même si je conduisais un camion ou autre chose, tout le monde savait que j'étudiais pour devenir prédicateur. Même au travail, on m'appelait parfois le prédicateur. Et c'est pas parce que je prêchais aux autres, mais c'est parce qu'ils savaient que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu être. Malheureusement, dans ma formation de prédicateur, je crois que j'ai prêché une seule fois pendant les 4 ans que j'étais en formation de prédicateur. Et la seule fois que j'ai prêché, j'étais devant 13 personnes, un peu comme aujourd'hui, devant 13 personnes. Et puis, le résultat que j'ai eu sur une échelle de A jusqu'à F, c'était un B. Et c'est pas la meilleure note. J'ai eu un B. Et j'ai posé la question pourquoi j'ai reçu un B. Et l'enseignant de la classe, du cours, a dit parce que ça ne passerait pas dans une salle avec 1000 personnes. Et j'ai dit mais on était 13. Il dit bah ça passe bien pour 13, mais pas pour 1000. Bon, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de prêcher pour 1000 personnes, et donc pour vous, je crois que c'est un A que vous allez me donner, donc un 10, pendant que peut-être dans une salle de 1000, il y aurait moins de choses. Mais être prédicateur, c'est toujours quelque chose que j'ai eu à cœur de faire. Le métier n'est pas ce que j'ai imaginé après tant d'années de prêcher. Mais j'aimerais partager avec vous des choses que je crois que ce passage dit pour ceux qui désirent partager l'évangile avec d'autres d'une manière publique ou peut-être aussi en privé. Donc juste pour mettre ici, je vais essayer de faire donc notre prédicateur là. Donc il a ton texte, là il a le doigt comme ça, parce qu'il a toujours un doigt qui est comme ça, le prédicateur. Et puis là, devant les autres, et avec son regard qui est rempli de la joie d'apporter la bonne nouvelle. J'aimerais juste vous partager certaines choses que je vois dans ce texte qui peut nous aider. Et malheureusement, nous finissons, comme j'ai dit, les Hébreux aujourd'hui. Nous allons commencer la vie de Jésus dans l'épître, disons dans la lettre, l'Évangile selon Matthieu, la prochaine fois. Voici ce que nous avons, Hébreux 13, 18 à 25. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, avec la volonté de nous bien conduire à tous égards. Je vous demande instamment de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous demande, frères, de supporter cette parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Bon, nous avons vu que dans cette épître, dans ce serment, cette exhortation, il y a un appel à la persévérance, car la vie est un pèlerinage où nous passons à travers toutes sortes de joies et de difficultés, de souffrances et de gloires pour arriver finalement à notre cité céleste. Et nous avons un auteur de notre salut qui s'appelle Jésus, le pionnier, qui a passé à travers toutes ces différentes choses. Et nous, les yeux fixés sur lui, comme dit Hébreux chapitre 12, le verset 1, nous courons la course, les yeux fixés sur lui, en nous débarrassant du péché, en nous débarrassant du mal, avec une espérance de le retrouver. La vie est un pèlerinage. Et nous devons rester fermes pour retrouver notre cité céleste. C'est en restant attachés à Jésus que nous allons arriver. C'est ça le message que nous avons 13 chapitres. Rester attachés à Jésus. Et comme cela, on arrive à cette cité céleste. Que nous pourrons suivre le chemin que les autres ont suivi. Des hommes et des femmes, des hommes et des femmes qui ont suivi le chemin de la foi à travers toutes sortes de difficultés et de souffrances. Et il ne faut jamais chercher une autre chose que notre Jésus qui règne au-dessus de toutes choses. C'est ça qui nous rappelle chaque fois. Ne cherchez pas autre chose. Même si nous ne voyons pas maintenant qu'il règne au-dessus de toutes choses, il est à l'œuvre. Et c'est ça qu'il dit. Que Jésus est plus grand, il est plus grand que les anges, il est plus grand que les prophètes, plus grand que Moïse, plus grand que la loi, plus grand que les sacrifices, plus grand que les prêtres. Il est plus grand que le grand prêtre. Et donc, il y a Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Et quand l'auteur termine, je ne sais pas si vous avez ressenti un peu l'émotion qui est là à la fin quand il termine, parce qu'on n'a pas vu cela au début. Il est assez forensique, hein, c'est assez scientifique sa manière de présenter les choses. Jésus qui est plus grand que les anges, Jésus qui est plus grand que les prophètes, Jésus qui est plus grand, et puis il va aller décortiquer l'Ancien Testament pour nous montrer ces choses. Mais quand il arrive à la fin, vous voyez que cette émotion commence à se voir. Il dit donc « Priez pour nous ». Vous avez vu cela juste au début, priez pour nous. Et je crois que le « nous », c'est les conducteurs qui sont mentionnés au verset 7, 17 et verset 24. Je crois que c'est un ancien, ça c'est ce que je vois, c'est un ancien membre de cette assemblée, pour une raison ou une autre, peut-être pour prêcher ou autre, est allé ailleurs. Et il dit donc « priez pour nous ». Et j'aimerais que vous sachiez qu'une des choses quand on décide de partager l'Évangile, quand on décide de prêcher, quand on fait ces choses, c'est vrai, en quelque sorte, on devient donc un leader ou un conducteur, qu'il y a quelqu'un qui va regarder vers vous pour écouter ce que vous avez à dire. Vous allez influencer la vie de quelqu'un d'autre. Et quand vous parlez la parole de Christ, quand vous annoncez la parole de Christ, vous êtes en train d'influencer la vie de quelqu'un. Bon, ça peut être devant tout le monde, ça peut être à table quand vous êtes en train de discuter, ça peut être, ça me rappelle quelque chose que Jésus a dit. Et combien de fois pendant la semaine que je suis avec les gens, j'essaie de dire, ça me rappelle de quelqu'un qui a dit cela. Et puis, je dis ce que c'est, ils disent, c'est qui? Je dis, c'était Jésus. Okay? Parce que l'idée, c'est que nous sommes en train, quand nous partageons, nous sommes en train de conduire les gens. Et ici, nous voyons que ce prédicateur est comme cela, et c'est quelqu'un qui est un leader. Quand vous parlez, vous êtes en train d'influencer. C'est pas si vous avez dans votre texte, au verset 22, « Je vous demande, frère, de supporter... » Et qu'est-ce que vous avez après? Quel est le mot que vous avez? De supporter, vous avez quelque chose là? De faire bon accueil. OK, de faire bon accueil de quoi? De au verset 22? De paroles d'exhortation, OK? De l'encouragement. Et j'ai vu un autre texte qui dit le serment, c'est le Tob, hein, qui dit le serment. Il dit ici de supporter cette parole d'exhortation. Et le mot que nous avons, c'est le mot paraklesios, paraklesios, qui est comme l'esprit, le paraklesis, n'est-ce pas? Celui qui vient à côté de nous. Et c'est l'encouragement que nous avons. On pourrait dire cette parole d'exhortation, on pourrait dire ce serment, ok? On pourrait dire cet encouragement que je vous ai apporté. On pourrait le traduire aussi exhortation, c'est-à-dire l'appel de vivre autre chose. On peut l'appeler aussi une consolation ou un réconfort que je vous ai apporté. Car vous savez que celui qui prêche cela, qui a envoyé cela, il croit qu'une parole donnée au nom de Jésus peut changer une vie. Il croit qu'une parole donnée peut changer une vie. Et sans doute, c'était le cas à travers nos vies. Que peut-être pour certains parmi nous, c'était très peu de paroles qui nous ont convaincus. Et nous avons donc suivi le Christ grâce à peu de paroles. Et pour d'autres, c'est toute une vie d'écouter ce message que finalement, ça entre en nous pour nous changer. Et donc, le prédicateur va apporter une parole d'exhortation, okay, ou d'encouragement. Ce n'est pas simplement apporter des informations, de vous décrire quels sont les quatre types d'amour, et puis vous avez plus d'intelligence à ce niveau-là. C'est non plus de décrire comment quelqu'un se crucifie ou qui a été crucifié à l'époque, juste pour avoir les informations. L'idée, c'est que à travers l'enseignement qui est donné, que nous soyons exhortés, que nous soyons encouragés, que nous soyons reconforter pour nous rapprocher de plus en plus à notre Dieu. Et donc, le prédicateur va apporter une exhortation, un encouragement, un reconfort à son Église. Et la deuxième chose que nous remarquons, ou troisième chose que nous remarquons ici, c'est au verset 18. Il dit, nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience. Nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience avec la volonté de nous bien conduire à tous égards. Donc, quand nous regardons cela, nous sommes en train de parler de cette bonne conscience, c'est que il n'est pas là pour manipuler, il n'est pas là pour influencer pour lui-même, il fait cela de bon cœur, parce que Dieu l'appelle à le faire. Et c'est cela que nous remarquons ici. Ce n'est pas pour que les gens le suivent lui, mais c'est pour qu'ils suivent le Seigneur. Et la plus grande joie d'un prédicateur, c'est de voir que les gens, ils donnent leur vie à qui? À Jésus. C'est ça qu'ils veulent voir. Que les gens y donnent leur vie à Jésus. Et puis après, il dit non seulement une bonne conscience au niveau de motivation, mais aussi au niveau de la conduite. C'est-à-dire de vivre une vie qui plaise à Dieu. On a déjà vu cela au verset 13. Vous regardez juste un peu plus haut au verset 15. Okay? Le verset 15 et 16 dit « Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il y a les bonnes œuvres qui sont là. Et il y a le koinonia, c'est le mot qui est utilisé, la communion, c'est le partage, la libéralité. Et ces deux choses, donc, dans la vie de l'enseignant, vont appuyer son message, vont appuyer le fait que quoi? Qu'il est en train d'enseigner une bonne nouvelle, mais il vit la bonne nouvelle dans toutes ces choses. Vous avez entendu? Je ne peux pas entendre tes paroles, car tes actions parlent trop fort. N'est-ce pas? Et c'est l'idée de, avec les paroles, il y a ces actions qui sont là. Et donc, nous avons cette idée moi je dis des bonnes œuvres, mais c'est pas vraiment, c'est ça, mais c'est d'avoir une vie qui désire plaire à Dieu, avec une bonne conscience. Et puis, nous voyons l'autre chose qui est là, c'est que non seulement il y a ce que j'appellerais le logos, c'est-à-dire la proclamation de la parole, okay, qui ici est un encouragement. Non seulement il y a le ethos, okay, qui est l'éthique, comme on vit, mais il y a une dernière chose, c'est le pathos, c'est l'émotion qui passe. Et je le sens à la fin de ce paragraphe. Quand il dit, par exemple, au verset 22, il dit, « Je vous demande, frère, Je demande, frère, de supporter cela. Ou il dit, j'ai envie de venir vous voir. Il est en train ici de parler de cette idée de relation avec les gens. Et un prédicateur ne va pas vivre donc dans un type de musée où il est coupé de tout contact avec les autres. C'est une vie qui est vécue en relation les uns avec les autres. Et cette idée de vivre cette relation est importante. Il a envie, ce prédicateur, d'être avec cette église. Et il voit Dieu à l'œuvre dans leur vie et donc il rend grâce à Dieu. Donc, ces différentes choses que nous voyons, ce logos, donc la parole qui est donnée, cet ethos, cette éthique qui vit de bonne conscience et de bonnes œuvres, combinées avec le pathos, l'émotion de relation qui vit avec les autres, c'est quelque chose qui fait que les gens sont attentifs à ce qu'il a à dire. Mais vous avez remarqué, malgré toutes ces qualités, le prédicateur, il a des doutes. Vous l'avez remarqué? Dans notre texte, il parle de cela. Au verset 22, il dit, « Je vous demande, frère, de supporter cette parole d'exhortation. Okay? » Alors, vous dites seulement cela si vous avez des doutes, okay, que les gens ils vont l'accepter de cette façon. Et parfois, le prédicateur doit dire des choses dont les frères ne sont pas toujours d'accord d'entendre. Et donc, il prie pour cela. Il travaille cela dans la tête. Il dit, comment est-ce que je peux exprimer cela de la meilleure façon que les gens puissent l'accepter, mais sans dire des choses qui sont fausses? Comment est-ce que je peux défier l'assemblée à vivre des choses et à changer sans les décourager? Et donc, le prédicateur, il dit, je demande que vous supportiez ce serment qui est là. Ce n'est pas facile de dire pour ceux qui aiment plaire aux autres, ce n'est pas facile à dire ce qui peut déranger. Mais le prédicateur doit le dire. Vous vous souvenez Barry Baggett qui était à Genève il y a plusieurs semaines, nous étions plusieurs à écouter, il citait un prédicateur aux États-Unis, un prédicateur noir, qui disait ceci, « Je n'ai jamais baptisé quelqu'un sans l'avoir fâché avant. » C'est-à-dire, il a dû parler du péché, il a dû parler de la rébellion, il a dû parler de la mauvaise nouvelle. Et quand les gens entendent cela, ils n'ont pas envie de juste l'accueillir. Souvent, ils ne sont pas seulement remplis de tristesse, ils sont parfois remplis de haine ou de colère ou comment est-ce que tu peux dire ça? Tu crois que tu es meilleur que moi, etc. Et puis, on revient à cela et la personne se rend compte qu'on a besoin. Donc, besoin de ce pardon. Et donc, le prédicateur, c'est aussi celui qui vit avec ses soucis. Ses soucis que la parole soit acceptée et pas rejetée. L'enseignement peut craindre cela, mais il doit toujours dire ce qui est vrai. Toujours. Mais comment le faire? Bon, Éphésiens chapitre 4, les versets 14 et 15, je me réfère souvent à cela. Il dit ceci, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre séductrice, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » En disant la vérité avec amour, la vérité avec amour. Et quand vous regardez ici, que quelqu'un qui dirige les autres et qui influence, quelqu'un qui a une parole d'exhortation ou d'encouragement, quelqu'un qui fait les bonnes œuvres à travers une bonne conscience, qui vit avec la relation avec les autres, vous voyez, cette personne peut prononcer la vérité avec amour. Bon, qui est le prédicateur? Bon, c'est aussi celui qui a besoin de vos prières. Il commence notre section, il dit « Priez pour nous. » Priez pour les conducteurs qui enseignent. Jésus lui-même a dit, priez pour que Dieu donne des ouvriers. Je vous demande instamment, dit-il, de prier pour moi. Et vous savez quoi? On prie parce que quand quelqu'un sait que je prie pour eux, jour après jour après jour, ça soude une relation, ça crée une relation. Je vous ai parlé de Susan Kaiser, qui est décédée il y a plusieurs années, qui était notre voisine. Et quand elle est décédée, une des choses qui m'a beaucoup frappé, je savais que c'est quelqu'un qui priait pour nous, comme église, et priait pour notre famille tous les jours. Elle priait pour, et ça soude une relation avec eux. Prier, c'est développer une relation. Prier, c'est avoir un impact sur la vie des gens. Parce que notons bien dans notre texte, il dit prier pour nous, pour que nous puissions venir. Il croit que la prière va changer quelque chose. Et la prière a un impact. Il dit, prier, c'est pour le bien de l'Église. Et si l'on ne prie pas, alors cela va changer des choses. Si on prie ou si on ne prie pas, ça change les choses. Et donc, le prédicateur a besoin de prière. Okay. Bon, que fait encore le prédicateur? Alors, les versets 20 et 21. On va les relire. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Bon, juste une chose qu'il fait ici, c'est que continuellement, okay, il va rappeler aux autres, à l'Église, qui est Dieu et qui est Jésus. C'est ça qu'il fait. Il ne leur révèle pas, il ne leur donne pas une nouvelle information. Que dit-il? Il dit, c'est le Dieu de paix. Bon, ça, il savait que c'était le Dieu de paix. Mais il répète des choses qui fait que Dieu, il cherche vivre en paix et en réconciliation avec les autres. Il parle de ce qu'il a fait. C'est qu'il a ramené de la mort, par sa puissance, le berger des brebis. Et donc, il nous rappelle qui est Jésus. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et puis, il nous rappelle que Jésus est le maître et il nous rappelle aussi que à travers Jésus, nous pouvons adorer Dieu jusqu'à l'éternité. Et toutes ces choses, donc, l'Église savait déjà. Mais le prédicateur révèle ces choses chaque fois, redit ces choses, répète ces choses pour que cela devienne vraiment partie de l'Église. Mais tout cela fait partie de quoi? C'est fait partie d'une bénédiction. Okay? Il bénit l'Église. Et donc, attention, je ne veux pas dire qu'il a un pouvoir de bénédiction qui est au-dessus de toutes les autres personnes. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'il bénit. Et n'aimez-vous pas cette bénédiction? C'est tellement riche que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre la mort, le berger des brebis, hein, par le sang d'une alliance nouvelle, notre Seigneur Jésus vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est riche, hein? C'est cinq lignes qui contiennent tout l'évangile. Ce Dieu de paix, Dieu de puissance, qui a ramené le grand berger à la vie, qui nous a rendu, nous, aptes à faire ce qui est bien, pour aussi donner ce qui est agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc, toutes ces choses sont là. Et je crois que le prédicateur, il bénit, l'enseignant bénit l'Église. Et c'est un peu la crainte peut-être que nous avons dans notre culte qui est simple, c'est de bénir. On a crainte de bénir parce que ça devient un peu stérile, comme le grand qui bénit les petits et tout. Mais je crois que ça fait partie de ce que c'est d'enseigner, c'est que on est en train de bénir les gens. Et donc que le Dieu de paix soit avec vous tous. Et puis finalement, la dernière chose que nous voyons, c'est que... je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais je trouve que c'est bien. Non seulement il porte la bonne nouvelle avec grand B et B majuscule et N majuscule, mais quand il a une nouvelle qui est bonne, il le partage. Et vous avez vu quelle est la bonne nouvelle? Il dit Timothée n'est plus en prison. Oui? Timothée n'est plus en prison. Ouf, ça doit faire du bien. Il a été relâché. Okay? Bon, il attend 13 chapitres pour le faire. Okay? Mais il partage cette bonne nouvelle. Et je crois que c'est vrai que le prédicateur, l'enseignant, doit aussi parler de ce que Dieu est en train de faire à travers les prières des saints, et de partager ces différentes choses. On trouvera toujours des choses qui sont difficiles à dire. Par exemple, ouais, ça fait déjà 2 ans que Timothée a été en prison et finalement il était relâché. Non, c'est pas ça. Il est plus en prison et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais venir vous voir et s'il vient assez tôt chez moi, il va venir avec moi. Il partage toutes ces bonnes choses. Et donc, l'enseignant partage l'œuvre de Dieu et les bonnes nouvelles avec les autres. Et donc, n'oubliez pas d'apporter une bonne nouvelle. N'oubliez pas de parler de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. J'aimerais juste dire une dernière chose et j'aurai la conclusion. Mais j'aime bien ce qu'il a dit. Il a dit ce prédication ou ce serment court. Il dit bref, c'est le mot qu'il utilise. Vous avez vu? Quand il parlait de cette exhortation. Okay. Il parle du fait que c'est bref. Et vous savez que si vous voyez quelqu'un vous étend, alors il faut pas trop parler trop longtemps. On rigole un tout petit peu, c'est quand même 13 chapitres. Il parle des choses qui sont difficiles. Il dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et peut-être qu'il pense qu'il ne sait pas dire. Mais je crois qu'on a 45 minutes de lecture qui est là. Mais pour lui, c'est une prédication qui est brève. Et donc, je vais terminer avec ceci. Il nous a parlé des choses difficiles, celui qui a écrit la lettre. Il nous a inspiré, il nous a corrigé, il nous a mis en garde. Et il nous rappelle que nous avons le sang d'une alliance nouvelle en Christ Jésus, que nous avons la grâce donnée par un Dieu de paix, que nous pouvons louer Dieu pour l'éternité à travers Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et nous devons continuer à vivre fidèlement, car il y a une cité céleste qui nous attend. Et nous ne sommes pas encore arrivés. Mais une fois là, notre lutte sera terminée et nous vivrons dans la communion que Dieu a préparée pour nous.